Vous êtes arrivé au bout de l'impasse. Vous êtes face à la porte. Asseyez-vous. Écoutez. Et attendez la prochaine indication pour vous mettre en marche.
Donc voilà, centre hospitalier d'Arles, service des urgences, SMUR, Arles, le 29 septembre 2012.
Julie.
Je sous-signé Arnaud Le Gallo certifie qu'une patiente disant se nommer...
Les cheveux à la mode, une frange rousse.
Moi, amont Julie.
Vraiment très belle.
S'est présentée aux urgences d'Arles le 29 septembre 2012 à 19h25 et déclare avoir été victime de violences volontaires le 26 septembre au matin.
Le regard profond et
pas celui de la séduction,
si touchant quand
mais
elle
le regard d'un vrai sourire.
Elle présente de multiples contusions, boîte crânienne, face, hématome périorbitaire.
Les bras enfoncés dans manteau court en poils blancs.
Bilatéraux.
Chemise écossaise rouge.
Membre supérieur droit.
Longue
gauche. Membre inférieur droit.
Belle.
Ainsi qu'un choc émotionnel dont le retentissement final ne peut être évalué
belle,
à ce jour.
Exubérante Julie.
Femme
s'est pris des coups pendant 6 ans.
Fait à la demande de l'intéressé et remis en main propre.
Très très touchée. Je passe les années avec lui noir. Très, très, vraiment jamais oublié de ma tête. Jamais. D'habitude, je pleure tous les jours. Comme j'étais avec lui, je pleure tous les jours. Tous les jours, tous les jours, les problèmes, tous les jours, la bagarre, tous les jours, les insultes, tous les jours, tout mon corps, tout bleu, noir, tous les jours. Très, très mal. Violent, il tapait beaucoup tous les jours, Il insultait tous les jours plusieurs fois. Mais j'ai pas le droit à travailler avec lui, j'ai pas le droit à sortir avec toute seule, J'ai pas le droit à parler avec les gens, j'ai pas le droit à parler avec les voisins, j'ai pas le droit à parler à aucune personne. Interdit avec lui. Même lui sort tout seul, moi je reste à la maison, la porte fermée. C'est pas moi qui décide. Tout lui décide, moi je parle pas du tout. J'ai pas le droit de toucher le portable. Il y en a deux portables, je parle avec ma famille, devant lui, c'est pas tout seul, j'ai pas le droit. Je parle pas tout seul. Même les chaînes de télévision, lui qui décide quelle chaîne, il regarde la télévision. Même pour aller le WC, je demande. Est-ce que je peux aller le visser? Imaginez, je demande lui. Obligé, je demande. Si je ne demande pas la bagarre après. Il fait toutes les choses de mes habits, une chambre. La chambre, elle est fermée 24 sur 24. Et dans la pièce, il y en a mes habits, mes papiers, la nourriture, il y en a tout. L'huile, le couscous, les boîtes de conserve, il y en a tout. Tout de la chambre. Tout la chambre pleine jusqu'à la porte. Tout de la chambre. Il ferme la chambre.
Mais vous, vous faisiez comment? Du coup, vous n'aviez pas accès du tout à la nourriture ou il l'ouvrait de temps en temps? Ça se passait comment?
Il ouvre la porte et donne, lui, il donne les choses. C'est pas moi. Moi, j'ai pas décidé. J'ai pas loué. Moi, je parle pas à lui. Décidé tôt. Les pères. Et ben, mais c'est pas moi qui. On dirait c'est pas une femme avec lui. On dirait le chien. On dirait un animal avec lui. On dirait c'est pas une personne avec lui. Vous comprenez? C'est pas une personne.
Levez-vous et sortez de l'impasse.
J'étais pieds nus. Je suis partie me réfugier chez ma mère. On devait être au milieu de la nuit, je sais pas. J'avais mal un peu partout, mais ma tête avait morflé. J'ai un deuxième œil au beurre noir qui est sorti. J'avais le front tout gonflé, j'avais super mal. J'avais l'impression d'avoir une bosse, mais que c'était mon crâne qui faisait une bosse. Moi, j'avais jamais eu la tête aussi amochée que ça. Et je crois que... Enfin, c'est sûr même. Je sais pas à quel moment j'en ai eu conscience, mais... J'ai eu conscience que j'aurais pu mourir. C'est la première fois... que j'ai eu l'impression que c'était vraiment grave.
Je peux pas parler, tellement très très mal, très très mal, très très mal. Ça fait très très touché. Je parle, il est bloqué ici. Je peux pas vous parler. Je peux pas.
Traversez le parking. Tournez à gauche. Passez la barrière et tournez à gauche, rue Le Courbe.
Je vous mets un sucre.
Oui, s'il vous plaît. Elle nous fait visiter son appartement.
La place est dans les appartements.
Dehors, il y a un parc, des voisins à tous les étages. Elle s'efface pour nous laisser passer, se colle au mur.
Vous voyez le salon, les chambres, c'est pareil.
Son appartement résonne,
c'est
petit, mais suffisant.
Quand je l'ai connue, en fait, on s'est jamais quitté. On a monté un projet ensemble de prendre un appartement... que lui puisse accueillir son enfant un week-end sur deux, et puis travailler, qu'on travaille tous les deux, quoi, pour construire une nouvelle famille. Mais tout s'est bien. Enfin, ce qui est marrant, c'est que au début, il a fini de me payer mon permis de conduire, alors que je le connaissais pas. Il m'a acheté des habits à plus de 100 euros, alors que, voilà quoi, ce que je veux dire, moi je me suis dit, bah s'il m'achète des habits, s'il finit de payer mon permis de conduire, en plus il me disait je t'aime, je me suis dit, bon bah apparemment il sait ce qu'il veut. Et puis, une fois que la vie elle s'installe, le problème, lui, il a eu beaucoup de soucis avec son ex. Il a eu beaucoup de soucis pour voir son enfant. À chaque fois qu'on allait récupérer son enfant, ça se passait très mal. Son ex arrêtait pas de le chercher.
Au bout de la rue, traversez en face sur les passages piétons. Puis,
alors,
prenez à gauche.
Du coup, puis moi voyant la situation. C'est vrai, je me disais, bon, bah, je peux comprendre pourquoi ça peut être énervant, pourquoi un homme s'énerve au final. Avec son ex, ça se passe pas bien, sa maman elle a le cancer, c'est peut-être pour ça qu'il s'énerve, c'est peut-être pour ça... Vu que mon ex, lui, c'était énormément verbal, hein, c'était pas... Du coup, c'est vrai que quand on se prend la tête, on... Voilà, tout le monde se prend la tête, quoi. Après, je lui ai trop pardonné. C'est vrai que le couteau, j'aurais dû déjà partir. Puis bon, on se dit, bon, allez, hop, c'est un coup de pétage de plomb. En sachant que lui, il était drogué, en sachant qu'on avait perdu notre fille, en sachant qu'il buvait, je lui trouvais toujours des excuses, au final. Je lui trouvais toujours des excuses. Puis chaque événement, enfin, gros événement dans ma vie avec lui...
Traverser l'avenue de la Gardée.
Ça se passait très mal. Et puis on se disait, bon, ben, la prochaine fois, ça ira mieux. Puis il essayait aussi de s'en sortir. Il faisait des cures. Alors du coup, on se dit, bon, ben voilà, on pardonne parce qu'on y croit, parce qu'on croit qu'il va s'en sortir. Et puis le jour où j'ai décidé de partir, en fait, j'étais partie chez une amie un week-end. Puis c'était la première fois que j'étais partie de la maison. Ça faisait 5 ans... Puis ça, je crois qu'il l'avait pas accepté. Puis il savait que 2 mois après, il partait en cure pour se soigner. Et du coup, quand je suis rentrée le week-end de chez mon ami, ça a été le dernier été, mais ça a été le dernier le plus horrible qu'il avait abusé, quoi. Il avait trop, trop, trop abusé. De toute façon, tout ce que je faisais, tout ce que je disais, j'avais beau, je crois que j'aurais fait bien ou je faisais mal. Ça lui convenait pas. Alors du coup, au bout d'une semaine, la première fois, j'avais pris des coups de pied dans les fesses. Après, au bout de 15 jours, il m'avait mis une claque dans la figure. Et puis mon fils, il était à côté de moi. Et ça, je crois que ça a été le déclic. Je me suis dit, il m'a mis la claque. Je me suis dit, c'est terminé. Il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Enfin, ça a pris du temps parce que le moment où je m'étais présentée, le moment où il devait quitter le logement, parce qu'à la base, c'était pas à moi de partir de l'appartement, c'était à lui. Et à chaque fois, il me donnait des... Enfin, en plus, j'avais ses affaires, c'est lui qui avait investi dans le frigo, c'est peut-être des trucs bêtes, mais combien de fois il m'avait dit « c'est mon frigo ». C'est ma machine à laver. J'avais l'impression que j'étais avec lui parce qu'il avait son frigo, parce qu'il avait sa machine à laver, parce qu'il y avait son lit. On avait déjà essayé de casser en fait et ça n'a pas fonctionné parce qu'à chaque fois il me ramenait son linge. Puis au final, il dormait à la maison. Puis au final. Ça repartait soit sur des violences, et puis une fois que c'était sur les violences, après il pleurait parce qu'il regrettait. Il s'excusait même. Des promesses, il m'en a fait, mais bon, il les a jamais tenues. Et puis, je pensais qu'il allait avoir le courage de se prendre en main, puis vu qu'il a jamais eu le courage de se prendre en main, pour pouvoir de sortir de cette situation, c'était moi. Qui a dû prendre le courage. Je lui ai laissé toutes ses affaires. J'ai tout lâché. J'ai pris les enfants. Je suis partie. Je retourne. Enfin, c'est déjà arrivé qu'on se croise sur Besançon, mais je me sens encore. Quand je le crois, je me sens encore un petit peu faible.
Descendez à droite et empruntez le tunnel.
Streu, il a une puissance envers moi que j'arrive pas à contrôler. Pourtant, il a été méchant, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais je n'arrive pas à lui dire non en face. Parce que j'ai tellement peur, il m'a tellement fait peur que...
Direction Rhin.
Que je me dis, il peut péter un plomb. En fait, ce qui me fait peur envers lui, c'est qu'il peut être tout calme, puis d'un seul coup... retourner sa veste en 2 secondes, quoi. Et c'est ça qui fait que j'arrive pas à lui dire les choses en face. Enfin voilà quoi, c'est ça. Les violences conjugales. Voilà. Mais quand on est dedans, on se rend compte puis on se rend pas compte. On se rend compte qu'il y a un bug, mais on sait pas comment s'en sortir au final. Parce qu'on construit des choses ensemble et puis on veut pas, on s'accroche à notre rêve, puis on veut pas partir de ce rêve quoi. Puis on se prend des bonnes claques dans la figure, dans le sens, c'est vrai que quand on perd la confiance en soi, l'estime de soi. Moi je sais que vers la fin, quand j'étais avec mon ex-conjoint, je pensais carrément à la mort quoi. J'en étais arrivée là. Après on se raccroche parce qu'il y a les enfants, mais après moi je peux comprendre que, enfin maintenant je peux concevoir qu'il y a des gens, enfin qu'il y a des gens qui terminent mal.
Au début de l'expérience, des chiens ont été munis de harnais les empêchant de s'échapper. Puis, on les a soumis à des décharges électriques qui n'étaient précédées d'aucun signal et survenaient de façon aléatoire. Le lendemain, les animaux subissaient un entraînement pour apprendre à éviter les décharges ou à s'échapper. Le jour d'après, on refaisait l'expérience du départ. Un tiers des chiens apprit rapidement à éviter les décharges électriques, mais les deux autres tiers adoptèrent une attitude passive et ne cherchèrent pas à prendre la fuite. Les chercheurs en conclurent que l'attitude passive des deux tiers des chiens était la conséquence du manque de contrôle qu'ils avaient sur la situation. Cela les empêchait d'apprendre à s'échapper. Pour confirmer ces conclusions, l'expérience fut reprise avec des étudiants volontaires à qui on imposait des bruits insupportables de façon aléatoire et avec une intensité variable. Au fur et à mesure de l'expérience, les capacités cognitives des étudiants cobayes diminuèrent et aucun étudiant ne chercha à partir, alors que la porte n'était pas fermée à clé et qu'ils avaient été préalablement rémunérés. On sait désormais que l'impuissance apprise se produit lorsque les agressions sont imprévisibles et incontrôlables, et qu'il n'y a aucun moyen d'agir pour changer la situation. Les femmes victimes de violences dans leur couple disent qu'elles ne savent jamais quand et pourquoi la tension apparaîtra, pourquoi elles se feront agresser. Elles constatent que toutes leurs tentatives pour calmer leur partenaire sont vaines, parce que, nous le verrons, cela ne dépend pas d'elles. Alors qu'il paraîtrait logique de penser que plus la femme subit une agression grave, plus elle a envie de partir, on constate au contraire que plus la maltraitance a été fréquente et grave, et moins la femme a les moyens psychologiques de partir.
Touchez-vous les bras, les jambes, les joues. Fermez les yeux un instant. Et laissez accueillir un soupir. Un soupir. Un soupir.
Oh. bras se relâcher de chaque côté de la tête. Laissez encore accueillir des soupirs dans les dos.
Sortez du tunnel et prenez à droite les escaliers.
On a pris un petit temps assis. Je vous montre cet enchaînement de mouvements de la salutation au soleil. On commence les orteils rentrés, le front sort. Là. Voilà, on se redresse un petit peu. Voilà, pause. On laisse se cambrer un petit peu le haut du dos. Et puis la salutation au soleil, en fait, c'est toute l'histoire aussi de l'humanité. C'est aussi comment on passe de l'ombre à la lumière. C'est toute l'évolution de l'être humain. Comment il est passé de l'état de reptilien à l'homme debout.
Tu m'as suivi. Il est content qu'il y ait une prof. Je rigole un peu maintenant, oui.
T'as vu, elle est pas mal la veste là, non?
Elle avait belle.
H&M en plus.
Elle avait des belles. Puis c'est pour le printemps.
Mais elle est peut-être. Ça va, c'est parce que j'ai un gros pull.
Voilà, quand t'auras pas ton pull. Ouais.
Traverser la route vers les portes bleues.
J'ai pris la veste. Pour toi, c'est du 38. Elle est un peu étroite, quand même.
Enfin, moi, je suis plus hébergée, donc je peux prendre des habits un petit peu.
Avec mon copain.
Quand je viens, je peux regarder, mais sinon, je peux pas prendre là. Mais ça aide un peu à faire des économies. Comme ça, on peut mettre autre chose dans autre chose, quoi.
Prenez à droite.
Parce que les habits, c'est cher, quand même. Et puis, on peut mettre l'argent dans autre chose, quoi. Faire des petits cadeaux à ma fille ou...
Continuez tout droit.
Voilà, quoi. Parce que là, ça fait 3 mois je travaille pas. Donc, mais j'ai fait la formation estime de soi à CDF et puis toi une fin, hein, donc c'est comme ça, mais bon, c'est bien, ça m'a fait avancer et puis j'ai repris un bon coup confiance en moi et puis la solidarité femme et CDF, c'est le bon, les deux trucs. Puis moi, je me fais par un psychiatre, donc je trouve que c'est les 3 trucs qui me vont bien, quoi, parce que sortir d'histoire comme ça, on n'arrive pas comme ça. Moi, je croyais que du jour au lendemain, ça allait bien. Puis en fait, non, il faut des années pour se remettre sur pied. Quoi. Mais, voilà, quoi. Mais bon, je suis bien contente d'être tombée là. Et puis je suis bien heureuse. Quoi.
Ça va, écoute ça.
Merci.
Il y a un petit nœud là, c'est trop mignon. Non, je veux pas de jupe. Non.
Moi j'aime bien des jupes.
Il faudrait que je me remette, hein, c'est tout.
Alors pourquoi est-ce que je mets des jupes comme ça? Ah, c'est. C'est original. Oui. Mais moi j'aime bien des habits originaux. Les habits maintenant, je les aime pas.
Voilà, c'est bon.
Merci.
On a fait le bonheur. Oui, on a fait le bonheur.
Il m'a jamais directement demandé de m'habiller comme ceci ou comme cela, mais j'ai un peu le sentiment après coup que c'est un peu comme s'il m'avait habillée quand même. D'abord parce qu'il m'offrait pas mal de trucs et puis je sais pas. Je sais pas, il y a une casquette par exemple, un jour je l'ai essayé comme ça devant lui et il m'a dit que ça le révulsait quasiment, enfin, il supportait pas ma tête avec cette casquette. J'ai failli sortir avec une fois. Et il m'a fait la gueule. Il fallait absolument pas que je mette cette casquette. Si je la mettais, c'était contre lui. C'est un exemple un peu caractéristique. Parce que ça a pu avoir lieu aussi avec des objets, ou je sais pas, le pain aux olives. Il m'avait dit qu'il détestait le pain aux olives. Un jour, j'en ai acheté et c'était comme si je lui faisais un affront personnel. Comment je pouvais acheter du pain aux olives alors que je savais qu'il détestait ça? C'était bien cruel de ma part.
Passer sous la voie ferrée.
J'ai réappris à bien marcher.
À bien marcher, c'est-à-dire?
À marcher comme avant, parce qu'avant, je marchais d'une autre manière, quoi. J'ai marché comme si je courais, voilà. Je marchais sur la plante des pistes et tout. Je ne sentais plus mon corps, j'étais comme ça presque anesthésiée à cause de ces souffrances que j'ai gardées longtemps. Donc, beaucoup de gestes que j'ai réappris comme ça, je n'avais pas le goût de la nourriture, quoi. Bon, sauf du sel, voilà. Tout comme l'ail, l'oignon, je ne sentais pas. C'est comme en marchant, je ne sentais pas la plante, le bas de mes pieds, voilà. Même sourire. Bon, quand je voyais des gens rire aux éclats, je me demandais comment ils font, parce que je ne savais plus rire aux éclats.
À gauche, asseyez-vous sur un banc.
Qui bannis qui onne ouria isangosen. Ego a keba qui bannis qui onne ouria isangosen. Ezen alde egingo. Baina norera. Ezen geiago txoria sango. Baina norera. Ezen geiago txoria zango etani. Txoria nuen maite etani. Txoria nuen maite. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Elle ne serait pas partie. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau.
Bien, bien, bien. Je suis chez moi. Et c'est bien que ce soit silencieux. Parce qu'il y en a eu des cris. Tout ce qui peut être renversé ici l'a été. La cabine de douche explosée. L'image qui m'est venue, moi, c'est celle d'une porte qu'on ouvre. La première fois qu'on se met à se crier dessus, c'est comme si on ouvrait une porte. Et après, dès qu'on se retrouve en situation de conflit, une fois que la porte est ouverte, le chemin est tout tracé vers les cris. Et c'est le chemin que prend le cerveau, les mots, le corps. Ce qui est sûr, c'est que pendant toutes ces années, 6 ans, il n'y a jamais eu un mois complet sans coup, D'ailleurs, échange de coups, parce que... Pas à chaque fois, mais... Je me suis défendue. Parfois même, c'est moi qui l'ai peut-être poussé en premier, parce que... Il me disait des horreurs, ou me criait dessus... Mais ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je lui ai crié dessus, je l'ai insulté, je l'ai frappé. Et je pense que ça a contribué au fait que j'avais pas l'impression d'être une victime. La plupart du temps, quand on parle de violence conjugale... Les témoignages qu'on peut lire ou qu'on peut voir, j'ai l'impression que c'est des femmes exemplaires qui sont avec un bourreau. Et moi, ben, j'ai pas l'impression d'être une femme exemplaire. J'ai plein de défauts. Et il m'a fallu vraiment du temps pour réaliser que j'avais subi quelque chose. On a le droit d'être la plus casse-couille de la terre et pas mériter de se faire taper dessus. On a le droit d'être une grande gueule et de ne pas se faire maltraiter. On a le droit de faire cramer le gratin de pâtes. Non, mais enfin, voilà. La première fois qu'on m'a posé la question, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi t'es restée ? Ben, je savais pas quoi répondre. Et je pense qu'après, voilà, il y a des mécanismes qui font que toute personne soumise à un traitement comme ça, de chaud, froid, de... Moi, j'étais en même temps rabaissée et accusée de tous les maux, et en même temps, j'étais sur un piédestal, j'étais une fée, j'étais merveilleuse, j'étais la personne la plus incroyable qui soit sur cette terre. La psy du groupe de parole, elle disait que ces mecs-là, ou ces personnes-là, elles se servent de l'autre comme d'une poubelle. Elles déversent dedans tout ce qui est pas beau, tout ce qui est sale. Chez elles, paf, elles le déversent à l'intérieur de vous. Et voilà, du coup... On me recrache après.
Repartez.
Je sais pas pourquoi, mais quand on est victime de quelque chose, très rapidement ou quasi instantanément, on se sent responsable. Je sais pas pourquoi, mais... Et là, on est foutu parce que... Mais on ne parle pas.
Continuez sous la porte, marchez. Puis prenez à gauche les escaliers.
Je crois que la deuxième partie du combat, elle est là. Il faut qu'on ose parler de nous, de nos défauts, de tout ce qu'on a pu faire de mal, parce que le problème, il est ailleurs.
Bon, bon. On peut se rassembler au milieu des gens, là on fera mieux. Allez.
Bonjour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui a lieu le 25 novembre. On profite du samedi pour se manifester, pour manifester pour ces femmes, manifester contre les violences. On souhaite effectivement briser le silence autour de ces violences qui sont malheureusement quotidiennes pour un certain nombre de femmes. Le quartier a été marqué récemment par un assassinat de femme, par son mari. Tout le monde ici se sent concerné. Donc nous avons souhaité intervenir en mémoire de cette femme et en soutien à ses enfants.
Violence conjugale, ce n'est pas un crime passionnel.
Ton nom, c'est quoi que tu comprends?
Un homme violent avec sa femme n'est pas un bon père.
Femme et homme ensemble contre les violences.
Frapper, insulter, ne pas aimer.
Stop violence.
Ok, écrit dans mon dos, c'est rien, je suis tombée dans les escaliers. Et devant, arrêtons le déni, en France, la violence conjugale tue une femme tous les deux jours.
Violence conjugale, se taire, c'est participer. C'est y participer, oui, oui. Donc, effectivement, si on se tait, eh bien, on laisse faire et du coup, on y participe. Et la semaine dernière, le 12 exactement, il a fallu en urgence qu'on mette à l'abri une femme et son fils et qu'on sollicite tout le monde, y compris la police, y compris tout le monde. Et là, contre les violences par son mari et des menaces sur elle et son fils. Alors on vit ça tout le temps, plus les femmes qui sont tabassées dans les caves et qui n'osent pas se rebiffer, et qui ne portent pas plainte parce qu'il y a l'environnement qui porte pression sur elles. Donc on est dedans et voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on le dise et qu'on soit présente dans la rue parce que c'est insoutenable.
Elle est morte à l'hôpital le lendemain. Léa, 30 ans, égorgée par son mari dont elle voulait divorcer. Celui-ci a appelé la police, puis bu un produit de nettoyage toxique. Mais il a survécu. Leurs deux enfants, de 4 et 5 ans, dormaient dans la chambre.
Après le portail, dirigez-vous vers le banc à gauche. Asseyez-vous.
Bah là, on attend Adèle. Ah bon, pourquoi on est là? Bah là, on attend. On fait rien. Et après, moi, je vais rejoindre des copines.
Là où on a des difficultés, c'est quand on est sur les stéréotypes et sur l'égalité. Là, c'est plus compliqué parce que il y a d'abord des filles qui disent « mais c'est normal, nous quand même, on doit, c'est à nous de faire le ménage, de servir les garçons. » Et puis eux, ils ont le droit d'être énervés, et nous, on n'a pas le droit.
Mais faut pas l'entendre parler, son copain, il ressemble à la crime. Il ressemble à la crime.
Sur le plan sexuel, c'est difficile d'en parler avec les très jeunes. Donc, quand même, dans l'idée que les hommes ont des besoins que les filles n'ont pas. Ça, quand même, c'est pas quelque chose qui a disparu du tout, ça. Les hommes, les pauvres, ils ont des besoins. Il faut bien qu'ils les satisfassent. Alors, les filles, on ne sait pas si elles en ont, parce que personne n'en parle.
Ouais. Alors, moi, je vais décrire Lily qui est en face de moi. Elle est assise par terre comme une clochard. Elle a un pantalon bleu avec des trous aux genoux. Elle a des converses blanches. Elle a des petits pieds. Elle doit faire du 30.
Elle est nue.
Elle a un t-shirt avec des imprimés. Elle a les cheveux genre au niveau juste des seins. Un peu roux. Enfin, roux brun. T'as fait une couleur rousse avant, je pense. Bah alors, roux brun bizarre. Elle a du mascara qui fait des beaux yeux. Elle a des yeux marrons. Et elle a une bouche qu'elle vient de se mettre du rouge à lèvres pendant qu'on écoutait de la musique. Et c'est rose. Et elle a un élastique marron sur la main droite. Elle est très très chiante.
Il y a un an, deux ans.
Moi, depuis moi c'est les sourcils.
C'est la sixième aussi. Mais...
Ah non, moi depuis genre la troisième, ça fait deux ans. Mais là en été, il fait chaud et tout, donc on transpire, c'est assez dégueulasse. Du coup, moi je fais que mes sourcils parce que c'est un peu toute ma vie. Voilà.
Bah attends, je te la mets.
Repartez. descendez à droite la rue des Fusillés de la Résistance.
Je l'ai vu plusieurs fois chez des jeunes aussi, ça. Des jeunes qui disaient, c'est bien qu'on parle avec vous parce que on peut voir un peu s'il y a un moment où on peut basculer, quoi. Ça permet de visualiser parce que c'est très facile. Ils sont encouragés, les garçons, à être violents. Il y en avait un d'ailleurs, un jour, on a passé un film. Il y avait un espèce de grand escogriffe là, avec des bouts d'oreilles et une crête tatouée de tous les côtés, qui se balançait sur sa chaise. Et bon, moi, stéréotype, je dis, ce jeune homme n'a rien écouté. Parce qu'il s'est balancé tout le temps sur sa chaise et puis il avait le nez au vent. Et puis à la fin, étonnamment, tous les autres parlent. Et puis d'un seul coup, il dit, oui, mais alors, moi, si je fais... Si je ne montre pas que je suis violent, on va me traiter de pédé, hein, parce que on va dire, on va me dire sale pédé, parce que si je suis doux, et pourtant j'ai envie d'être doux, j'ai envie d'avoir une relation normale. Et il s'est mis à parler, et il avait des choses à dire.
À gauche. Prenez rue du Chapitre. Marchez.
Une fois dans une classe, il y en a un qui a dit. On était à Vienne, je me souviens. Il y avait une trentaine de... C'était une école de mécanique. Donc il y avait presque des garçons. Donc il y avait eu tout un débat sur les filles qui viennent dans les écoles de mécanique. Pourquoi elles sont toutes en jogging. Bon, on essayait de leur faire comprendre qu'elles ne pouvaient quand même pas être toutes en petits talons et tout. Voilà. Donc c'était intéressant le débat. Et puis alors, il y en a un, d'un seul coup il se lève et puis il dit, on est 30 ici. Eh bien, il y en a au moins 3 qui vont être violents. Qui de nous? Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour devenir violent?
Marcher. Passer devant le lycée François-Xavier. Allez au fond. Marchez. Marchez.
J'avais la volonté de m'en sortir, d'avancer en me disant ce qui est passé est passé. Il faut que je regarde vers l'avenir, il faut que j'avance. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai la liberté déjà. Parce qu'à partir du moment où je suis sortie de chez lui, je pouvais aller là où je veux. Sans compte rendu, sans informer d'avance que voilà, je veux aller à tel endroit, pour me dire non, tu ne vas pas toute seule. C'est là, c'était mes premiers pas de la liberté. Je me suis dit, mais enfin, je suis une femme libre. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux dire du fond de moi ce que je veux.
Marcher. Continuer. Marcher. Puis, allez où vous voulez.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais le voir. Hein. Parce qu'il lui disait que tu ne peux pas t'en sortir. En France, c'est pas comme... tu ne peux pas, voilà. Je lui montre que je peux. Je le lui ai dit, hein, si tu veux mourir, tu ne dois pas mourir avec moi. Moi, je veux vivre. Toi, tu veux mourir. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà. Après, il dit, non, lui m'appelle toujours chérie. Hein. Tu sais, je ne suis plus ta chérie. Et puis, bon, je ne voulais pas diaboliser tous les hommes. Parce que dans l'association aussi, quand on vit ça, on se dit, C'est tous les hommes. Non, tous ne sont pas comme ça. J'ai donc pris un recul aussi en disant, mais bon, lui, il a été comme ça. C'est pas tous les hommes. Je peux aussi essayer. Puis j'ai encore essayé. Bon, c'est autre chose aussi. C'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est bizarre, bon. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais pour moi, ça, je ne sais pas si ça s'oublie quand même. Je ne sais pas. On tourne juste une page, j'ai tourné une page et puis ça me fait avancer. Je reprends confiance en moi. Moi, je crois que c'est la leçon, autant de leçons que j'ai retenues dans cette situation-là. Surtout que c'est comme, on dirait, une nouvelle vie que je recommence, quoi. C'est une nouvelle vie. Et c'est là que je trouve que la vie est belle. Ah oui, la vie est belle parce que je découvre des choses aujourd'hui que je ne savais pas. Je ne savais pas si ça existait. Voilà. Je ne savais pas. Mais quand je découvre, ça me fait plaisir. Je me dis qu'il n'est jamais tard dans la vie. Il n'est jamais tard. Même si je ne redeviens pas comme avant, mais que j'ai quand même... que je recouvre beaucoup de... que je découvre aussi le bonheur, hein, parce que la vie n'est pas toujours faite d'embûches. Il y a aussi le bonheur, il y a aussi la joie quelque part, comme là, c'est la joie. Je viens là, c'est comme une joie pour moi. Je suis vainqueur, quoi. Donc, je ne suis plus vaincu. Aujourd'hui, je suis vainqueur de tout ce que j'ai vécu, de tout le mal que j'ai, de toutes ces violences-là. Non, moi, je suis très contente aujourd'hui d'en parler. Et dire aux autres femmes, surtout les femmes qui sont dans cette situation-là, qu'il y a de l'avenir. Si elles avancent, qu'elles restent positives, qu'elles ne restent pas parce qu'elles ont été violentées, qu'elles ne croisent pas les bras là, qu'elles puissent avancer. Que la vie est... Déjà, quand on recouvre la liberté, c'est là où on se rend compte que la vie est belle. Voilà, qu'elle pense à elle. Et puis une femme, elle n'est pas seulement pour vivre avec un homme, hein, qu'elle ne dépende pas toujours des hommes, parce que parfois c'est dans nos cultures, quoi, que la femme doit dépendre de l'homme. Non, la femme n'est pas... On est dans un pays modernisé, que la femme ne dépend pas d'un homme, quoi, ni l'homme dépend de la femme. Parce que quand on est sorti de ce système-là, c'est là où on voit le prix de la liberté. Et c'est là où on comprend que la liberté n'a pas de prix. Les cadeaux, les machins, ça ne vaut pas le prix de la liberté. Même la bonne nourriture, les bisous, ça ne vaut pas le prix de la liberté. Vous êtes jeune, ça je vous le dis. Les petits cadeaux là, c'est juste pour vous embaumer et dire oui, vous restez sous, hein. Allez, vous restez mon jeu, je fais de vous comme je veux, voilà. Ouais. Des cadeaux, je ne dis pas que c'est mauvais, mais que ça ne soit pas sous une forme de dépendance, parce que c'est une façon de vous mettre là-dedans, et puis... Vous y entrez sans le savoir. C'est comme ça que moi je vois ça. C'est ce que j'ai vécu. Mais le bonheur aussi, parfois, il est ailleurs. Hein. Quand il y a des violences, c'est qu'il n'y a plus de bonheur là. Même s'il y a des cadeaux, il y a des machins, non, ça ne vaut plus rien. Mais aujourd'hui, j'ai déjà presque... Je ne crois plus que j'ai caché quelque chose là. Non, je crois que j'ai tout vomi là. Aujourd'hui, je peux encore répéter ça. Je cherche toujours si je n'ai pas dit quelque chose. Non, moi, j'ai tout dit. J'ai tout dit et puis ça fait du bien. Ça fait du bien.
Debout, debout, debout.
C'était Les portes qu'on ouvre, une balade sonore réalisée par Chloé Truchon. Entretien, Victoria Cazares. Voix, Victor Demange. Musique, Egoac, Chambasque et Haiti, des Bouxettes, interprétées par la chorale des Cheveux Courts. Risible amour, de Nekfeu. Lecture d'un extrait de Femmes sous emprise, de Marie-France Irigoyen. Merci à toute l'équipe de Solidarité Femmes Besançon. Élise, Cécile, Patricia, Brigitte, Lila, Solène, François, Stéphanie, Marie-Vonne et Julie. Merci à Victoria Cazares, Myriam Prévost, Quentin Mercier et Aïda. Et un merci particulier à Elisabeth Trouche pour son aide indispensable. Une balade proposée dans le cadre du projet Parcours de Radio Campus Besançon, responsable artistique Aurélien Bertini, avec le soutien financier de la mission de lutte contre les discriminations de la ville de Besançon. Pour toute question concernant les violences faites aux femmes, appelez le 3919. Besançon, septembre 2015. Nous sommes esclaves et brisés.